J'essaie d'écrire en russe. Alexandra Kalantay. Vitiski rech. Vitiskaya rech. Du féminin rech. Ah, discours Tsar Goled. Comment on pourrait traduire ça l'empereur famine.
Alexandra Kollontai a été une des grandes oratrices de la Révolution russe. Elle est élue par les soviets de soldats, donc par les conseils de soldats qui vont prendre bientôt le pouvoir.
Reconnue le mot bourgeoisie. C'est très intéressant de l'entendre déclamer vraiment son discours avec une intonation qui s'envole à chaque fin de phrase et qui insiste bien sur les mots les plus importants. Donc on a plusieurs niveaux de houle. On ressent vraiment toute la ferveur militante d'Alexandra Kollontai, donc militante socialiste qui croit en le bien fondé de ce nouvel ordre social et qui semble vouloir sincèrement œuvrer pour un monde meilleur.
Elle monte en 1917 sur les bateaux de guerre, bateaux interdits aux femmes. On aurait aimé y être, prendre la parole comme femme dans une foule d'hommes. Mais d'un autre côté, elle est tout à fait capable d'éclater en sanglots. Alors on pleure beaucoup en politique à l'époque, il faut aussi nuancer, ce ne sont pas que les femmes qui pleurent. Mais elle en joue volontairement ou pas, mais enfin consciemment c'est sûr. Elle a été consciente de ces paradoxes, qu'est-ce qu'être une femme en politique et une femme de pouvoir dans cette Europe et dans cette Union soviétique des années 20, des années 30.
Alexandra Kollontai, une femme en révolution. Marie Chartron, Somanina. Sur une affiche de 1920 célébrant l'anniversaire de la Révolution d'octobre, une galerie de portraits des personnalités politiques russes se déploie. Au centre, Lénine. Autour de lui, dans des médaillons, Rykov, Radek, Pokrovski, Kamenev, Trotsky, Sverdlov, Boukharine, Zinoviev, Krylenko, Lunacharsky. Et dans cet aéropage masculin, une seule femme, Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai, née Alexandra Domontovitch en 1872 à Saint-Pétersbourg, dans un milieu aristocratique, est une brillante polyglotte qui parle couramment l'allemand, le français, l'anglais, le finnois. Dans l'une de ses autobiographies, elle écrit « Allez mon chemin, travailler, lutter, créer côte à côte avec des hommes, tendre de toutes mes forces vers un but qui intéresse l'humanité tout entière. Mais en même temps, mener ma vie intime et personnelle de femme selon mon propre vouloir, c'est cela qui déterminera ma ligne de conduite. » Femme politique, photographiée, filmée, encensée autant que scrutée pour ses toilettes et ses multiples liaisons réelles et supposées avec des hommes, de surcroît plus jeunes qu'elle, elle se voit affublée de divers surnoms, de Jaurès en jupon à Valkyrie de la Révolution, par les journaux qui tentent de la discréditer politiquement. Album photo avec Sophie Queré, historienne.
Vous les confeuillettes alors C'est son fils, effectivement, Micha, qui est né donc en 1894. Donc ça nous dit aussi que Kollontai, c'est une femme née, éduquée et mère au 19e siècle. C'est important aussi. Et ce garçon, son fils unique, donc qu'elle a eu avec Vladimir Kollontai, dont elle a divorcé, mais dont elle a gardé toujours le nom.
Elle écrit encore. La vie heureuse de maîtresse de maison et d'épouse devenait pour moi une prison. Je lisais voracement, j'étudiais avec zèle toutes les questions sociales, assistais à des cours, des assemblées plus ou moins légales. C'était les années où en Russie le marxisme fleurissait. Je quittais mari et enfant et me rendis à Zurich pour y étudier l'économie politique.
« Alors, je ne sais plus de quand date cette photo. Je ne sais pas si vous avez la date. C'est certainement une photo donc des années 1918, je dirais, ou entre 1918 et 1921, quand Alexandra Kollontai connaît son pic d'activité politique et de responsabilité politique, hein, puisqu'elle est commissaire du peuple à l'assistance publique, donc l'une des premières femmes ministres de l'histoire. Elle dirige le secteur des femmes du Parti communiste, le Jeannat Diel à la mort d'Inessa Armand. Donc elle est à son bureau. Elle pose le crayon à la main. Elle ne sourit que très peu. On ne la sent pas tellement intimidée par l'objectif, mais c'est vrai qu'elle fait partie aussi de ces femmes qui ont été photographiées très jeunes. On a des photos d'elle en jeune aristocrate adolescente.
Louise Weiss.
J'ai très bien connu la Kollontai, la fameuse Kollontai, qui était l'ambassadrice à la fin de sa vie des Soviets en Suède. Mais la Kollontai était également une force de la nature. Elle avait rallié les principes révolutionnaires. Je crois qu'elle était la fille d'un général. Elle appartenait à un très bon milieu russe. Et elle a été convaincue qu'il fallait changer le monde. Et je crois qu'elle est partie à l'étranger avant la révolution, la grande révolution russe, au moment de 1905. Et on la retrouve conduisant, je crois, à Paris et à Londres, des femmes révoltées par leurs conditions ménagères.
On est dans une phase où la Russie est en crise, puis en révolution en 1905. Elle rentre en Russie en 1905. Là, elle se lance dans de premières actions militantes au nom de la social-démocratie. Elle intervient dans les grèves des ouvrières et puis elle commence à avoir cette réflexion sur la place des femmes dans la future société socialiste. Et c'est là que, menacée, elle doit de nouveau partir. Mais cette fois, c'est un exil politique entre 1908 et 1917. Donc elle fait partie de ces intellectuels militants, socialistes, révolutionnaires, de toutes sortes de tendances qui, du fait de la répression politique du tsar en Russie, vivent en exil, travaillent en exil, vivent un petit peu entre eux, mais pas seulement, puisqu'ils sont aussi en contact avec la vie politique locale. Par exemple, Lénine, Kollontai sont assez proches des militants socialistes français Paul et Laura Lafargue. Donc, il y a tout ce réseau d'universités, d'imprimeries, de publications. Ces partis clandestins, il y a même des bibliothèques, il y en a en Suisse. Cette vie en quelque sorte parallèle à la Russie, mais en contact avec la Russie, notamment par les correspondances ou par les voyages clandestins, qui permet finalement à ces militantes et ces militants, dont Alexandra Kollontai, d'être immédiatement opérationnelle en 1917.
Elle est rentrée en Russie avec les grands révolutionnaires de l'époque et elle était considérée par eux avec un grand respect, une certaine tendresse, quelquefois un peu d'irritation parce qu'on ne pouvait pas la faire taire et qu'elle n'en faisait qu'à sa tête.
Alexandra Kollontai a 45 ans en 1917. Elle a déjà produit quantité d'écrits théoriques et de discours. Et parmi les grands chantiers politiques et sociaux engagés par le nouveau gouvernement révolutionnaire, elle entend bien réformer en profondeur la famille et l'amour.
C'était une révolutionnaire acharnée. Elle gênait même Lénine par ses réclamations. Elle était considérée par les autres communistes comme une tigresse. Ils en avaient un peu peur.
On annonce de Moscou qu'au cours du 8e congrès des soviets, une dame, Kollontai, a proposé que toutes les femmes de la Russie seront libérées de l'improductif travail domestique pour avoir toute facilité de prendre part à la vie politique. Nous ne nous doutions pas que la femme qui s'occupe de ses enfants, qui prépare la nourriture de la famille, qui surveille et entretient l'intérieur de la maison, se livre à un travail improductif. il est inutile d'indiquer que la proposition de cette dame a été adoptée.
Extrait du journal Le Mercure Aptésien, 1921.
Dès le tout début du XXe siècle, elle fait partie de celles et ceux, parce qu'il n'y a pas que des femmes, qui développent cette réflexion sur un certain féminisme à l'intérieur du marxisme, peut-on dire. Et elle débat donc avec, par exemple, Clara Zetkin sur ces questions. Elle écrit en 1909 les bases sociales de la question féminine. Et elle tente d'institutionnaliser cette question à l'intérieur du mouvement socialiste puis communiste. Elle essaye par exemple de demander à Lénine de créer une section des femmes à l'intérieur du parti, ce qui va devenir le parti communiste. Il refuse, car pour les marxistes, ça n'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment de changer l'ensemble du régime sur des bases de classe. De cette domination économique découlent toutes les autres dominations, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient féminines.
Savez-vous bien ce qu'on fera faire à la femme lorsqu'elle aura été libérée de ses misères domestiques pour lesquelles on a toujours considéré qu'elle était faite ? Elle s'occupera de politique.
Camarades travailleuses, pendant de nombreux siècles, la femme a été opprimée et privée de ses droits. Pendant de nombreux siècles, elle n'était rien de plus qu'un appendice de l'homme, son ombre. Le mari subvenait aux besoins de sa femme et donc elle était soumise à sa volonté. Elle supportait docilement sa propre impuissance, son propre esclavage domestique et familial. La révolution d'octobre a émancipé les femmes. Désormais, la paysanne a les mêmes droits que le paysan. L'ouvrière a les mêmes droits que l'ouvrier. Les femmes ont le droit de vote partout. Elles peuvent être membres des soviets, être commissaires ou même commissaires du peuple. Mais si, selon la loi, la femme a les mêmes droits que l'homme, la vie, en revanche, ne l'a pas encore libérée.
La principale source de réflexion pour Kollontai, c'est la théorie marxiste au sens large de l'époque, les classiques hein, de la fin du 19e, du début du 20e, à commencer par Marx, évidemment. Et sur la question des femmes, il y a deux livres qui sont considérés pendant tout un moment comme les deux références majeures, donc le livre d'August Bebel, La femme et le socialisme, et le livre d'Engels, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, qui font tellement autorité les deux que quand Kollontai essaye de faire autre chose, parfois, ou d'autres, hein, pas seulement Kollontai, prétendent aller plus loin, on leur répond que, en fait, tout a déjà été dit par Engels et Bebel.
Mathieu Renaud, professeur en histoire critique de la philosophie.
Kollontai, par ailleurs, avait une formation d'avant la réelle émergence du marxisme en Russie. Elle a été très influencée, comme tous les révolutionnaires et penseurs révolutionnaires russes, par les socialistes russes d'avant, qu'on a appelés les populistes, différents courants, anarchistes, terroristes et autres, qui jouent un rôle important dans sa formation intellectuelle, politique et même personnelle. Notamment le courant terroriste russe, l'organisation Narodnaya Volia, la volonté du peuple, où il y avait beaucoup de femmes et des figures de femmes révolutionnaires qui l'ont beaucoup marqué comme des exemples de ce qu'elle appelle de la femme nouvelle en rupture de banc familial, qui décide de tracer sa propre route, voilà, de rompre avec un milieu aristocratique qui était aussi celui d'où venait Kollontai. Donc il y a toute cette influence-là. Le marxisme, après, quand à la fin des années 1900, quand elle commence à voyager en Europe occidentale, un peu forcée, hein, parce qu'elle est menacée en Russie, elle découvre une littérature, alors Freud, on ne sait pas trop si vraiment psychanalytique, mais tout un ensemble de travaux relevant de la psychologie et de la psychiatrie autour de la question sexuelle et de la morale sexuelle. Donc il y a tout ça, c'est pas si évident à retrouver, à détecter dans son texte, mais c'est une influence qui paraît importante.
La tâche des travailleurs est maintenant d'organiser la vie de manière à soulager la femme du fardeau de la garde des enfants. Elle a soulagé de la tâche des services domestiques. Toute la classe ouvrière est intéressée à la libération des femmes dans ces domaines. Les travailleurs doivent comprendre que la femme est un membre de la famille prolétarienne, tout comme eux, car la femme travaille dans les mêmes conditions que l'homme.
Quelque chose sur lequel les bolcheviks étaient à peu près tous d'accord, enfin, parmi les dirigeants ou les élites, comprennent Lénine ou Trotsky, c'est la nécessité de libérer les femmes des tâches domestiques improductives, enfin considérées comme improductives, extrêmement inégalitaires vis-à-vis des hommes. Avec cette idée chez les uns et chez les autres que la solution, ce n'était pas le partage de ces tâches entre les hommes et les femmes, mais leur délégation au collectif ouvrier tout entier. Il fallait avoir des blanchisseries, il fallait avoir des cantines collectives, de l'habitat collectif pour le chauffage, le soin des enfants aussi devait être délégué autant que faire se peut à la communauté. Mais malgré tout, ils étaient un peu d'accord là-dessus, un peu moins sur la maternité, mais en tout cas sur le reste des tâches domestiques, ils étaient d'accord. Mais en même temps, des gens comme Trotsky disent « on est en période de guerre civile, il ne faut pas mener des expérimentations trop vite parce que ça va retourner la population contre nous ». En particulier en matière de famille, c'est un sujet extrêmement sensible. Voilà, on va nous accuser, mais ça a été fait en plus d'arracher les enfants à leur mère ou des choses comme ça. Donc on attend, on est prudent. Et l'approche de Kollontai était tout autre. C'était en fait, il ne faut pas attendre, parce que si on attend, on risque de renvoyer au calende grec la construction du communisme lui-même, parce que ce n'est pas un appendice à la construction du communisme, cette transformation de la famille. C'est corrélatif, tout ça va ensemble, et donc il faut mener ces expérimentations au plus vite. Et parfois, Kollontai, qui avait pourtant par ailleurs une vision de l'émancipation des femmes par le bas, l'idée aussi qu'elles devaient diriger par elles-mêmes les organisations qui étaient mises en place pour œuvrer à leur émancipation, donc vraiment une participation, bon, dans l'esprit des soviets, en gros, on pourrait dire, mais en même temps, Kollontai parfois avance des thèses par le haut, quasi autoritaires, et des thèses qui, voilà, la famille, c'est un sujet extrêmement sensible, dont elle sait que ça risque de heurter la population. Donc elle a ces deux dimensions un peu contradictoires, en tension permanente chez elle, mais c'est quelque chose de propre, on pourrait dire, à tous les premiers révolutionnaires soviétiques, enfin les vrais révolutionnaires, ça ne sera plus le cas chez Staline, mais cette tension entre une idée de la révolution par le bas, enfin par les masses, et une révolution orientée par le haut, par des idéologues professionnels, enfin comme elle, sur cette question.
Dans la société communiste, une femme et un homme doivent être égaux. Sans l'égalité des femmes et des hommes, il n'y a pas de communisme. Alors au travail, camarades travailleuses, libérez-vous, construisez des crèches, des maternités, aidez les soviétiques à créer des cantines publiques, aidez le Parti communiste à construire une nouvelle vie heureuse. Votre place est parmi ceux qui luttent pour l'émancipation des travailleurs, pour l'égalité, pour la liberté, pour le bonheur de vos enfants. Votre place, femmes ouvrières et paysannes, est sous le drapeau rouge révolutionnaire du communisme mondial victorieux.
Discours aux femmes travailleuses, 1918.
Alexandra Kollontai s'oppose au féminisme bourgeois. Pour Alexandra Kollontai, le féminisme de son époque n'est pas un féminisme abouti, dans le sens où il ne réfléchit pas conjointement l'émancipation des femmes et l'émancipation des ouvriers et des ouvrières.
Flora Boffi, éditrice.
Je me souviens plus très bien la première fois que j'ai entendu parler d'Alexandra Kollontai, mais je me souviens par contre l'avoir rencontrée au détour de L'Art de la Joie, de Goliarda Sapienza. Alexandra Kollontai, en fait, est un modèle pour son héroïne Modesta. Un personnage dit à Modesta « Vois-tu, Modesta, tu ne peux pas à chaque meeting revenir toujours à cette Alexandra Kollontai. Angelica Balabanov, dis-tu ? Maria Giudice ?» Mais enfin, Modesta, ce sont des personnages difficiles, non alignés, des bombes plus qu'autre chose, au moins pour le moment.
L'idée de la propriété inviolable des époux a été soigneusement cultivée par le code moral de la classe bourgeoise, avec son idéal de la famille renfermée sur elle-même, entièrement construite sur les bases de la propriété privée. L'idéal de la possession absolue, non seulement du moi physique, mais encore du moi spirituel d'un époux, est un idéal entièrement formé, cultivé par la classe bourgeoise dans le but de renforcer les fondements familiaux qui assuraient sa stabilité.
les rapports entre les sexes et la lutte des classes, 1911.
À partir donc d'octobre 1917, elle est au pouvoir, donc elle a la possibilité très concrètement de mettre en place un certain nombre de réformes qui vont être très importantes parce qu'elles sont tout à fait en rupture avec ce qui s'est fait auparavant, y compris sous forme de réformes dans les pays occidentaux, hein, des réformes extrêmement radicales qui donnent aux femmes le droit d'avorter, le droit de divorcer, qui protègent la mère célibataire, qui émancipent la femme au travail et qui lui apportent l'égalité. Donc des réformes extrêmement spectaculaires. Elle prend ses positions les plus radicales, notamment par exemple sur la collectivisation d'un certain nombre de moments de la vie des femmes, la naissance. On ne doit plus accoucher chez toi, mais dans des maisons de naissance, l'éducation des enfants, la crèche, la cuisine collective. Et pour elle, donc, ces questions de vie quotidienne sont extrêmement importantes. Elle tente de mettre en place un congé de maternité qui permette donc à la femme de s'occuper pleinement de leurs enfants, mais non sans paradoxe, puisque ensuite l'enfant doit plutôt entrer dans une existence collective qui permette aux femmes de s'affirmer dans le travail et aussi dans la vie intellectuelle, dans la vie artistique, créative. Elle veut aussi émanciper les femmes par rapport à la religion. Là, c'est une femme de son temps, que ce soit l'Église orthodoxe ou que ce soit l'islam.
Album photo. Conférence des femmes d'Orient, à Moscou, en 1921. Alexandra Kollontai est de trois quarts, au centre d'un groupe de femmes.
C'est le projet anti-impérialiste bolchevique qui est déployé là et qui va s'allier donc avec un projet d'émancipation des femmes. Il s'agit notamment de retirer le voile. Certaines sont voilées ici, d'autres non. On ne sait pas leur nationalité ou leur appartenance ethnique, hein, puisqu'on emploie à l'époque le mot de nationalité pour mentionner l'origine ethnique et la religion musulmane. Et elle pose au milieu de ces militantes qui sont donc venues à Moscou pour repartir en Asie centrale ou dans le Caucase, ce qu'on appelle l'Orient, avec un biais de supériorité. Hein. Lénine, notamment, considère que ces peuples sont arriérés. Donc il s'agit de les émanciper, de les entraîner dans le projet d'émancipation marxiste, mais aussi anti-impérialiste, au prix, bien sûr, de nier tous les projets d'indépendance nationale ou de panislamisme qui se sont déployés, surtout depuis la chute du tsar en 1917. Donc Kollontai contribue aussi à une reprise en main par le centre moscovite de ses périphéries, ce qui donnera donc lieu à la naissance de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, en 1922.
Une femme aime tel homme du fond de son âme. Leurs pensées, leurs aspirations, leurs volontés sont en harmonie. Mais la force des affinités charnelles l'attire irrésistiblement vers un autre. Un homme éprouve pour telle femme un sentiment de tendresse pleine d'attention, de compassion pleine de sollicitude, tandis qu'il trouve chez une autre compréhension et soutien pour les meilleures aspirations de son moi. À laquelle des deux doit-il consacrer la totalité des ros? Et pourquoi devrait-il déchirer, mutiler son âme si la plénitude de son être ne se réalise que par la présence de l'un ou l'autre lien? Plus sont nombreux les fils tendus de l'âme à l'âme, du cœur au cœur, du cerveau au cerveau, plus est solide l'esprit de solidarité et plus facilement se réalise l'idéal de la classe ouvrière, la camaraderie et l'unité.
Place à l'Eros ailé, lettre à la jeunesse laborieuse, 1923.
Il y a une volonté donc de rompre avec le couple monogamique fondé sur la logique de la propriété privée qui va bien au-delà de motifs économiques. Le principe de la propriété privée s'est diffusé dans toutes les sphères de la vie jusqu'à la vie intime et caractérise les relations de couple selon elle, donc propriété sur le corps de l'autre, mais encore plus pathologique on pourrait dire, la propriété psychique sur l'autre. Donc c'est pour ça qu'elle essaye de penser autre chose. Un amour camaraderie, comme elle le dit, qui se définit par une multiplicité selon deux axes. types de relations avec différentes personnes et aussi, de manière non moins importante, une multiplicité des types de manifestations de l'amour qui vont de, simplement de l'amitié à des relations purement physiques, de l'attirance physique, mais avec toute une gamme de rapports affectifs entre les individus, entre les hommes et les femmes chez elles, parce qu'elles ne pensent pas vraiment autre chose que ça hein, dans l'amour. C'est très hétéronormatif également, ce qu'elle appelle l'amour camaraderie.
On lui reproche à Alexandra Kollontai de faire de l'intime un élément essentiel de son combat et d'articuler trop promptement l'émancipation sexuelle, sentimentale, affective des femmes à l'émancipation du prolétariat. Elle remet en question la morale bourgeoise, mais elle réinstaure malgré tout un autre type de morale, qui serait, je ne sais pas, peut-être une morale révolutionnaire ou prolétarienne, où en réalité l'enjeu serait plutôt de définir une relation en termes de respect, de camaraderie, de sympathie et d'amour, plutôt que de devoir, de fidélité et de restriction du désir et de la sexualité. Elle rejoint en cela peut-être ses détracteurs, à commencer par Lénine, qui voyait en sa théorie de l'amour-camaraderie une possible dérive vers justement une sexualité déchaînée, dangereuse. Dans Les Roses scellées, elle rappelle que son concept d'amour-camaraderie n'est pas complètement anarchique et qu'il doit être guidé par quelque chose qui relierait en fait les êtres entre eux, hommes et femmes, dans une sorte d'égalité, de solidarité, toute prolétarienne.
Un certain nombre croient que ces nouvelles conceptions sont révolutionnaires et communistes. Ils le croient sincèrement. Mais à moi qui suis vieux, cela ne m'en impose pas du tout. Quoique je ne sois rien moins qu'un ascète, cette soi-disant nouvelle vie sexuelle de la jeunesse et parfois aussi de l'âge mûr m'apparaît comme purement bourgeoise, comme une extension du bordel bourgeois. Cela n'a rien de commun avec la liberté de l'amour telle que nous la concevons, nous autres communistes. Vous connaissez certainement cette fameuse théorie selon laquelle la satisfaction des besoins sexuels sera, dans la société communiste, aussi simple et sans plus d'importance que le fait de boire un verre d'eau. Cette célèbre théorie du verre d'eau, je la considère comme tout à fait anti-marxiste et même antisociale.
Propos de Lénine, rapporté dans les souvenirs de la militante socialiste et féministe allemande, Clara Zetkin.
Et Lénine donc parle d'une théorie du verre d'eau sans l'attribuer explicitement à Kollontai, mais très probable que ça soit elle qui soit visée par ça, parce que dans les années qui suivent, c'est elle qu'on visera directement à travers cette expression, qui serait l'idée, selon Lénine, que dans la future société communiste, il sera aussi simple de faire l'amour avec quelqu'un que de boire un verre d'eau. Donc ça, c'est l'idée que Lénine condamne, pas en tant que telle, parce qu'il dit que ça dévoie la jeunesse et dans une période révolutionnaire où toutes les énergies doivent être concentrées vers l'effort de la construction de la société communiste. On ne peut pas perdre autant de temps dans des considérations et des pratiques de ce type-là qui risquent d'épuiser la population et les énergies doivent être concentrées autrement. Pour elle, c'est juste une déculpabilisation de la sexualité qu'elle cherche à exprimer à travers cette dite théorie du verre d'eau. C'est une sorte de socle, de condition de possibilité d'autre chose, mais ça résume certainement pas la pensée de Kollontai. Et le plus étonnant là-dedans, c'est que Kollontai va être vilipendée pour ces thèses-là, alors qu'elle remonte en réalité, quand on lit le livre d'Auguste Bebel, « La femme et le socialisme », c'est répété plusieurs fois, la même thèse. Ça n'a jamais provoqué d'émoi chez personne. Enfin, c'était considéré comme une référence, ce texte. Bebel va en chercher les sources lui-même chez quelqu'un comme Luther. Bon, c'est pas extrêmement subversif, pourtant, comme thèse à la base. C'est une thèse sur la naturalité de l'amour, en fait, la naturalité de la sexualité. Mais c'est très symptomatique que quand ces mêmes phrases sont prononcées par une femme, qui en plus est un peu dérangeante à tous les niveaux, sa volonté de réformer, de révolutionner la morale sexuelle, mais aussi tout court au sein des cercles du pouvoir soviétique, elle dérange pour d'autres raisons, et voilà le type de réaction que ça peut produire.
Elle se démarque déjà de Lénine, bon, à plusieurs reprises. Hein.
Sabine Dulin, historienne.
Kollontai, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Comme elle dit souvent, elle dit... quand on lui interdit de dire quelque chose ou d'écrire quelque chose dans un journal, elle dit « oui, c'est normal, je l'ai fait à la Kollontai ». Donc à la Kollontai, ça veut dire qu'elle dit les choses de manière assez nette et qu'elle est souvent dans l'opposition. Donc la première fois qu'elle est dans l'opposition à Lénine, c'est au moment de Brest-Litovsk, c'est-à-dire qu'elle n'est pas d'accord avec la signature de la paix en 1918 avec l'Allemagne, qui se fait selon des conditions très mauvaises pour les bolcheviks, hein, puisque les Allemands ont gagné sur le front. Et donc c'est en fait leur donner toute une partie du territoire de la Russie occidentale. Et donc là, Kollontai, elle est avec d'autres, hein, Boukharine et d'autres, qui sont pour relancer une guerre révolutionnaire. Bon, c'est Lénine qui finit par l'emporter. Donc là, Kollontai n'était pas d'accord avec lui. Et puis, ça recommence déjà dans le cadre de la guerre civile, où elle est très sensible au danger de ce qu'elle appelle la commissarocratie, c'est-à-dire le fait que ce soit les commissaires qui aient le pouvoir et non pas les soviets. Donc les soviets, c'était ces conseils de démocratie directe qui émanaient des ouvriers, des soldats, et qui devaient garder le pouvoir dans le cadre du congrès des soviets, parce qu'elle veut maintenir un droit en fait de défense des ouvriers par le biais des syndicats. Donc elle est très sensible à ces affaires-là, et l'opposition ouvrière va se développer notamment à la fin de la guerre civile, quand Lénine décide de faire une pause pour en fait réussir à lancer une reconstruction du pays, stopper les révoltes. Il y a la fameuse révolte de Kronstadt en 1921. Et donc, pour essayer de neutraliser, enfin d'arrêter les révoltes et de reconstruire le pays, Lénine décide donc d'aller vers la nouvelle politique économique, c'est-à-dire une réintroduction relative d'une économie de la petite propriété privée, avec de nouveau du commerce libre, une paysannerie qui peut essayer de s'enrichir. Bon. Et Kollontai, qui est pour l'égalité, pour le fait de rester à un niveau où il y a une sorte de vraie égalité et aucune inégalité de richesse, disons, et contre le retour à la NEP.
Dont elle parle beaucoup dans ses nouvelles. Elle campe plusieurs personnages qui sont séduits par cette politique plus libérale, par cette NEP qui leur permet de se réapproprier certains privilèges. Elle s'y oppose ouvertement. C'est à ce moment-là qu'elle est écartée du pouvoir. Et dans ses nouvelles, elle met en scène ces personnages qui, par faiblesse ou par nécessité, se tournent vers des fonctions dans le cadre de la NEP qui leur permet de nouveau de s'embourgeoiser en réalité. Ces hommes qui s'embourgeoisent et qui se laissent tenter par la NEP redeviennent ces maris qui exigent de leurs femmes une présence, une loyauté, une servilité, etc., etc. Encore une fois, dans ses nouvelles, elle corrèle réellement le système économique avec ce qui se passe à l'intérieur des foyers et la manière dont insidieusement la femme est de nouveau reléguée à des rôles subalternes pendant que les hommes se partagent les privilèges.
Il ne faut pas voir Alexandra Kollontai comme une femme forcément qui aime négocier, qui aime temporiser. C'est une femme radicale à l'époque et même radicalisée. Ce qu'on voit, nous, évidemment, depuis notre présent, ce sont des renonciations. Elle accepte, par exemple, sans vraiment répondre, d'être largement insultée dans la presse bolchévique. Elle accepte ce portrait d'elle qui est fait dans les entretiens de Clara Zetkin avec Lénine, qui sont des entretiens posthumes, donc on ne sait pas ce que Lénine a vraiment dit. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a ses écrits très personnel d'Alexandra Kollontai sur l'éros, sur l'amour dans la société socialiste. Et Clara Zetkin fait parler Lénine pour reprendre les critiques de toute une partie donc des penseurs et des hommes politiques, des femmes politiques marxistes. C'est-à-dire que la priorité, ça n'est pas l'émancipation individuelle ou l'épanouissement individuel, et surtout pas par le sexe, comme le dit Lénine, cité par Zetkin, hein, la jeunesse socialiste, ce doit être des corps sains et des cerveaux sains. Travailler, faire du sport, apprendre, mais la vie sexuelle n'est pas un sujet. Et ça, Kollontai, en quelque sorte, doit accepter d'être réduite à ce type de formule qui va la poursuivre durablement.
On a beaucoup reproché à Kollontai justement d'avoir été trop loin et d'avoir mis en insécurité les femmes. puisque l'avortement nécessite quand même d'avoir un système de santé qui soit à la hauteur et nécessite aussi des relations hommes-femmes qui aient pu intégrer cette possibilité de l'avortement. Or, évidemment, tout ça n'est pas présent dans une société qui est encore complètement paysanne, dans laquelle il y a des rapports hommes-femmes très traditionnels, très archaïques. Et le divorce, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que pour les hommes, il est facile de quitter des femmes qui souvent sont avec des jeunes enfants. Et quelque part, ça va être instrumentalisé par Staline. Hein. Une fois que Staline arrive au pouvoir, donc à la fin des années 20, renforce son pouvoir, il va finalement s'appuyer sur ce qu'il considère comme une voie qui vient d'en bas et qui dit qu'il faut retourner à des formes traditionnelles de la famille, avec un divorce moins facilité, et une interdiction de l'avortement, ce qui sera le cas de nouveau en 1936. Et derrière ce qui a pu être considéré par les mouvements avant-gardistes comme un retour à la tradition, donc un tournant conservateur dans le cadre du stalinisme, a pu être légitimé du point de vue du pouvoir soviétique par le fait qu'ils avaient écouté les voix d'en bas qui considéraient qu'il y avait une insécurité pour les femmes, et donc les femmes elles-mêmes, dans le cadre des cellules communistes, pouvaient effectivement considérer qu'il fallait remettre en cause ces réformes qui avaient été portées de manière très radicale par Alexandra Kollontai au début des années 20.
Pour sa radicalité sur la question des femmes, et surtout son rôle moteur au sein de l'opposition ouvrière, Alexandra Kollontai se retrouve donc écartée du pouvoir au début des années 20. Dans une disgrâce relative, elle se met à écrire des nouvelles.
Au lieu d'un travail assidu et constant, un éternel désert. S'inquiéter, vivre en comptant les heures de rencontre en rencontre. Rentrer à la maison vannée, fatiguée, la tête vide. Et l'amertume, oui, le cœur amer. La déception, encore une journée de perdue. Toujours ces mêmes 32 pages. Après tout, si elle n'était vraiment bonne à rien, les autres y arrivaient bien, à conjuguer les deux. Pourquoi n'y parvenait-elle pas? Ou bien était-ce là le lot de toutes les femmes, la carrière ou l'amour? Et les doutes s'entassaient, croissaient, ils rongeaient son âme, ils l'angoissaient. Seul ce serait terrible. Avec lui, tout était comme oublié.
Extrait de la nouvelle 32 pages, milieu des années 1920.
Entendue dans le train et sœur surtout, et même 32 pages.
Arthur Huguenot, traductrice.
Les nouvelles dont on parle illustrent le point de rupture dans la vie de ces femmes, un point auquel elles sont arrivées et à partir duquel leur vision de l'amour, du couple et des relations amoureuses et sexuelles ne sera plus jamais la même. Ce sont des femmes qui se rendent compte au moment du récit qu'elles sont prises dans un carcan dont elles pouvaient éventuellement ne pas se rendre compte auparavant, et qui maintenant voient se matérialiser ce carcan autour d'elles et qui ressentent soudainement une envie, un besoin irrépressible de le briser, ce carcan. Il y a beaucoup de gens, il y a des femmes désespérées, il y a des femmes trépignantes, il y a des maris blasés, il y a des femmes tristes, il y a des jeunes pleins d'espoir, il y a des vieux dépassés. Les personnages de Kollontai, je pense, ont eux-mêmes beaucoup de personnages dans leur tête. Quand ils nous racontent leurs histoires et quand ils vivent leur vie page après page.
Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant de découvrir dans les nouvelles d'Alexandra Kollontai une autre facette de cette militante qui haranguait les foules et qui posait comme ça des certitudes et qui semblait montrer la voie vers un nouvel avenir amoureux et sentimental, et qui en réalité dans ses nouvelles met en scène des personnages qui parviennent pas vraiment à surmonter les difficultés d'être en relation avec des hommes et des femmes.
Et j'ai l'impression, en fait, en lisant ces histoires, de me retrouver comme si j'étais une fidèle du Moyen-Âge en train de lire les vitraux d'une église, en fait. Ou les fresques d'une église, finalement. Ces nouvelles-là se veulent plus accessibles que les discours et les écrits politiques. Elles ont pour but de toucher un large public pour qui ce concept de lutte des classes, d'évolution des mœurs, etc. sont des principes abstraits, voire destructeurs, qui pourraient éventuellement au mieux ne rien leur apporter, sinon peut-être la ruine d'une certaine structure sociale à laquelle ils pouvaient sûrement tenir. Parce qu'un cadre, c'est toujours rassurant, finalement.
Ces nouvelles, est-ce qu'elle les a écrites parce qu'elle avait plus de temps? Est-ce qu'elle les a écrites parce qu'elle sentait qu'il était nécessaire à ce moment-là de passer par un autre biais que les discours politiques? Ce que je sais, c'est que à cette époque-là, en Russie, les femmes et les hommes lisaient des fictions, des feuilletons romanesques, et elle estimait que pour toucher réellement les cœurs, la fiction était un élément indispensable. Elle avait envie de trouver un moyen populaire de s'adresser à la population et mettre en scène des histoires qui pourraient être lues comme on lit un feuilleton romanesque, pourraient lui permettre de faire passer ses idées.
Cher ami, merci pour vos bonnes lettres, mais savez-vous ce qui est très étrange? Moi aussi j'ai la même sensation d'inquiétude morale, d'incertitude. Je suis déracinée et dépaysée.
Alexandra Kollontai écrit à Marcel Baudy, son ancien collaborateur à l'ambassade soviétique à Oslo, en 1926.
Le malheur est que je ne sais pas moi-même, comme vous aussi, ce que je veux au fond. Non, cela n'est pas juste. Je sais ce que je veux. Comme vous le savez aussi, on voudrait travailler, mais loin de tous ceux qui nous ont fait tout ce mal. Je comprends que vous ne vous sentez pas à l'aise à Oslo à présent. C'était aussi le même cas avec moi quand je suis revenue de M, alors sûrement Moscou. Et maintenant que tout a changé, j'aurais eu peur de revoir les endroits où nous avons travaillé avec tant d'espoir, de zèle et de courage.
C'est une époque où elle est en désaccord avec le Kremlin. Et dès 1922, elle est éloignée du pouvoir. Elle est envoyée en Norvège, où elle deviendra en 1924, je crois, l'ambassadrice de Moscou en Norvège. Mais à partir de 1922, elle est déjà éloignée du pouvoir.
Elle est affaiblie politiquement et pourtant, elle essaye toujours, dans ses postes de responsabilité pour la question des femmes au Parti communiste, puisqu'elle n'est plus ministre, elle essaye de faire passer toujours des réformes. Et son dernier combat, celui qu'elle perd définitivement, c'est un combat législatif, c'est intéressant, hein, puisque c'est aussi cette confiance dans le droit, dans la réforme structurelle. Elle essaye de faire modifier le code de la famille, et notamment de, en quelque sorte, contractualiser la vie des femmes, la vie matérielle des femmes après leur divorce, au niveau social. C'est-à-dire que ça serait l'impôt qui devrait financer la pension des femmes divorcées qui n'ont pas les moyens de vivre seules, et non pas une pension alimentaire payée par le mari. Donc les femmes ne dépendraient plus du tout de leur mari. Et c'est une réforme qui est extrêmement débattue, qui finalement ne passe pas, et on voit Kollontai qui doute à ce moment-là. Elle est déjà diplomate, elle est très proche du jeune français Marcel Baudy, qui a lui aussi choisi la révolution russe et qui lui aussi doute beaucoup avec son groupe d'amis, hein, français, Pierre Pascal, Victor Serge. Et ses correspondances privées sont intéressantes parce que c'est un peu le maximum qui passe finalement de ses doutes. Donc certains restent en Russie. Ça sera le cas de, par exemple, de Pierre Pascal. Kollontai, elle est finalement déjà partie, mais elle reste dans le système soviétique. Donc c'est une demi-mesure peut-être, mais elle fait donc ce choix de ne pas émigrer et plus tard de ne pas partir non plus combattre pour l'Espagne, ce qui a été aussi une échappatoire.
Oui, elle est d'abord à Oslo en Norvège, puis ensuite elle ira un petit peu au Mexique avant de revenir en Scandinavie. Alors là, elle est comme tous ceux qui, à un moment donné, ont été un peu trop opposants, mais qui, par ailleurs, tous ceux qui ont des compétences en langue, qui sont, compatibles avec une certaine culture européenne, on va tous les retrouver dans la diplomatie. Donc la diplomatie, dans les années 20, c'est un repère d'anciens opposants, un peu cultivés et cosmopolites et parlant beaucoup de langues. C'est des opposants relatifs, parce que c'est quand même des gens qui ont donné des preuves de loyauté à l'égard de ce que doit être la révolution bolchevique. Et puis, très clairement, à partir du moment où on les met à l'étranger, ils font bloc, parce qu'ils sont suffisamment révolutionnaires pour considérer que c'est plus important de défendre le régime, même si ce régime peut avoir des aspects qui ne leur plaisent pas, que c'est beaucoup plus important de défendre le régime que d'aller dans le sens de ceux qui sont les détracteurs de ce régime. Donc, d'un certain côté, il y a beaucoup de ces futurs diplomates, disons, et qui ont pu être à un moment donné, pas forcément dans la ligne de Lénine, très rarement dans la ligne de Staline ensuite, et qui par ailleurs ont pu avant être dans d'autres partis politiques, c'est beaucoup plus facile de les avoir de son côté quand ils sont face à ceux qui sont contre-révolutionnaires, à ceux qui veulent faire tomber le bolchevisme en Russie, etc. D'un certain côté, tant qu'ils sont à l'intérieur, ils peuvent s'opposer, mais à partir du moment où ils sont en face des diplomates européens, ils jouent complètement le jeu, et ça va très bien marcher.
Voilà. On voit Kollontai photographié, là encore, de manière sans doute pas très spontanée, mais dans un cadre plus atypique qu'un bureau ou qu'un congrès, puisqu'elle est sur un canapé de l'ambassade soviétique à Stockholm, et elle discute avec l'un de ses collègues, et il pose sous un grand portrait qui est le portrait de Staline. Donc évidemment, ça nous dit quelque chose de la femme ambassadrice exceptionnelle, mais toujours sous l'œil de Staline, avec lequel elle a négocié son départ dès 1923 et avec lequel elle entretient jusqu'à sa mort une relation complexe.
Donc elle a des entretiens avec Staline chaque fois qu'elle rentre à Moscou pour parler de la politique qu'elle mène dans les différents pays scandinaves. C'est sûr qu'elle joue le jeu, elle est loyale au régime, mais je pense que c'est vraiment une décision prise de servir malgré tout la révolution, même dévoyée, même imparfaite, même critiquable en regard du reste de l'Europe, qui lui paraît au fond quand même pire. Donc elle est quand même alignée sur la promesse de la révolution, et par ailleurs elle ne dira rien sur des tas d'éléments très graves, comme la famine en Ukraine. Dans le cadre de la famine en Ukraine en 1933, évidemment, beaucoup de sociétés européennes s'émeuvent de ce qui se passe en Ukraine, même si c'est le silence imposé du point de vue du pouvoir stalinien, mais malgré tout, beaucoup d'Européens s'enquièrent de cette question. Et donc, leur rôle, ça va être de dire que non, ça n'existe pas.
Entre 1934 et 1939, ce sont les grandes purges, c'est la grande terreur qui touche le peuple soviétique, mais qui touche aussi beaucoup, de façon plus spectaculaire, ses élites. Et notamment des proches de Kollontai, dont son second mari, son deuxième mari, puisqu'elle en a eu trois officiellement, Pavel Dybenko, qui est l'une des victimes de ces purges. Donc ça, c'est le non-dit, bien sûr, de la vie de Kollontai, puisque dans ses correspondances, on affleure ses correspondances publiées, celles que moi j'ai pu consulter, et ses écrits personnels, qu'elle a beaucoup retravaillés, remaniés, On voit affleurer son inquiétude, elle demande des nouvelles, mais bien sûr, elle ne prend aucune position sur les purges successives des élites soviétiques accusées de trotskisme, de sabotage, puisqu'elle-même est dans une position délicate, tout contact avec l'étranger pouvant amener à une accusation d'espionnage, sabotage, complicité avec le fascisme, avec l'impérialisme, et potentiellement une arrestation et une condamnation à mort.
Elle est sans aucun doute fatiguée à la sortie de la guerre, où elle devient, en fait, elle est mise à la retraite, et elle devient, à partir de là, une enseignante pour les nouveaux diplomates, qui sont tout à fait, c'est la nouvelle génération de diplomates qui ne sait pas grand-chose sur le monde étranger et qu'il faut former. Et elle écrit à Litvinov, qui est lui aussi à la retraite, hein, puisqu'on en a trois qui ont survécu aux purges, hein, c'est Litvinov, Maïski, Kollontai. Trois qui étaient des chevilles ouvrières de la diplomatie soviétique des années 30, avant le tournant du pacte germano-soviétique, et qui vont tous les trois mourir dans leur lit, ce qui est quand même rarissime à l'époque. Et donc elle écrit avec beaucoup de nostalgie à la fin de sa vie à Litvinov, « Je suis couchée chez moi dans ma chambre et je pense souvent à vous. Il était plus intéressant de vivre il y a 40 ans, en pleine lutte ardente pour nos idéaux. Vous étiez en Angleterre et moi je courais à travers le monde. » Donc là on voit aussi comment Kollontai, déjà âgé, qui a beaucoup donné pour servir finalement ce pays stalinien, mentionne ici à quel point il y a une époque qui est vraiment l'époque de référence dans laquelle on croyait à des idéaux, hein, et qu'on a été obligé quand même beaucoup de s'asseoir dessus pour continuer à vivre et malgré tout à travailler pour la patrie soviétique, hein, parce que ça reste malgré tout le pays que Kollontai défend, malgré tout.
Faire la biographie d'une femme aussi intéressante, c'est vrai que ça n'est pas facile. On peut la comprendre à condition de faire l'effort de se replacer à chaque moment de la vie de Kollontai. Peut-être le plus difficile et le plus cohérent, ça serait l'intellectuel marxiste, la penseuse de la Révolution et du nouvel État socialiste en construction. Mais ça n'est pas ça qui va rester à la postérité, ça n'est pas ça non plus qui s'impose forcément dans son personnage public des années 1920, parce que à l'intérieur de cette réflexion globale, je dirais marxiste, révolutionnaire, c'est vrai qu'elle déploie une réflexion personnelle sur l'émancipation des femmes, à l'intérieur de la réflexion marxiste, mais aussi, et là elle est vraiment la première à le faire, en ce qui concerne la vie privée des femmes et notamment leur vie sexuelle. Et c'est en quelque sorte normal qu'on se souvienne de ça. Et c'est ce qui a le plus bloqué finalement, c'est ce qui a le plus choqué, c'est là où elle a poussé le plus loin, je dirais, quelque chose qui n'est qu'à elle.
En même temps, donc, cette Kollontai, elle a beaucoup servi les intérêts de puissance soviétique, hein, à son poste, notamment en Suède, avec finalement le fait qu'elle a aidé diplomatiquement à éviter que la guerre d'hiver contre la Finlande soit une catastrophe complète du point de vue du pouvoir stalinien. Donc elle a eu un rôle d'accompagnement de l'affirmation de la puissance agressive, hein, soviétique en 1939-40. Et puis ensuite, elle a eu un rôle dans la Grande Alliance, dans la Grande Guerre patriotique, pour aider dans les pays neutres à mettre en œuvre cette politique de Grande Alliance. Et puis ensuite, elle a servi à la sortie de la guerre dans la formation des nouveaux diplomates de l'ère Molotov, même si elle n'aimait pas beaucoup la diplomatie de la guerre froide, hein. Ça n'empêche pas qu'elle a participé à tout ça, et je pense que c'est dans ce cadre-là que finalement on instrumentalise Kollontai, hein, ce qui peut intéresser même le régime russe actuel dans une logique de continuité étatique, c'est de montrer malgré tout qu'on a eu la première femme diplomate, voilà, et que donc on a quelque chose que les autres n'ont pas, donc une vraie spécificité, une vraie différence. Et on récupère la partie qui finalement est sûrement pas celle qu'on retient en Occident, parce que celle qu'on retient en Occident, c'est quand même la féministe, la femme émancipée, la révolutionnaire.
pense que ce qui reste...
Mathieu Renaud.
Actuel, enfin, en usage, bon, ces réflexions sur l'abolition de la famille et sur la communalisation des tâches reproductives, de mise en commun généralisée, ça fait partie de ce qui peut être actuel. Ça critique des formes de propriété en amour, il me semble qu'elle vaut tout, quasiment tout aussi bien aujourd'hui. Pour elle, la forme même, le sentiment par excellence malheureux qui exprime cette logique de la propriété, c'est la jalousie. Là-dessus, il y a encore des choses tout à fait actuelles chez Kollontai, voilà, dans cette critique de la propriété, en amour, mais aussi dans les relations parentales. Son rapport aussi très ambigu à la libération des femmes dites orientales, des femmes musulmanes, des périphéries de l'Empire russe, bon, ça, il faut en produire la critique, mais en fait, c'est aussi actuel parce que ce qu'elle en dit, on pourrait en retrouver des traces dans ce qu'on peut appeler le féminisme blanc. Il y a aussi une actualité négative, on pourrait dire. Et sur les stratégies d'articulation des luttes féministes et des luttes sociales de manière plus générale. Donc une volonté vraiment d'articulation, même de penser la question de l'émancipation des femmes comme une partie intégrante de la question sociale plus générale, partie intégrante d'un ensemble plus large donc, mais aussi pour elle toujours partie autonome, préserver l'autonomie en fait, des luttes dites minoritaires. Kollontai comme figure du féminisme tout court, plus spécifiquement du féminisme socialiste, encore plus spécifiquement du féminisme marxiste, mais il y a quelque chose de tellement particulier dans la pensée de Kollontai que c'est vraiment une figure... Est peut-être la seule véritable de ce qu'a pu être un féminisme bolchevique.
La pensée d'Alexandra Kollontai, elle est très méliorative. Elle cherche à réparer quelque chose, elle cherche à tout simplement à rendre une partie du monde meilleure. Et je pense que c'est le but principal de tout militant, à n'importe quelle époque, rendre le monde meilleur, tout simplement.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mémés les plus louches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pile idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos.
Merci à Flora Boffi, Sophie Curie, Sabine Dulin, Arthur Gonneau et Mathieu Renaud, ainsi qu'à l'historienne Marion Labbé pour la correspondance entre Alexandra Kollontai et Marcel Baudy. Voix, Lison Pinet, Delphine Keravec et Rafik Zénine. Prise de son, Raymond Albouille et Florent Bujon. Mixage, Étienne Collin. Documentation INA, Véronique Jolivet. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Alexandra Kollontai, Une femme en révolution. Un documentaire de Marie Chartron, réalisé par Somani Na.
C'est bon pour les gogos. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus, stade creuse, mais là donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos.